RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue à Valois, ou plus exactement à Saint-Michel-de-Maurienne, car nous sommes redescendus de la montagne, où a été jugée tout à l'heure l'arrivée de cette quatrième étape du Tour de France, première étape de haute montagne et premier col hors catégorie, le Galibier, qui a donc livré sa vérité tout à l'heure avec le succès d'un certain Tadej Pogacar, un petit coureur qui débute pas, mais qui nous a régalé encore une fois aujourd'hui. Il est à l'heure au rendez-vous et a frappé, marqué les esprits aujourd'hui en s'imposant et en faisant quelques écarts, notamment grâce à une descente exceptionnelle. Pogacar qui a attendu avant d'attaquer, sans doute a-t-il retenu les leçons du passé, un peu moins chien fou qu'il ne l'avait été jusque-là. Et on va évidemment discuter de cette prise de pouvoir de Tadej Pogacar avec toute l'équipe de l'After Tour. Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Oui, je suis là. Bah, je suis là d'ailleurs depuis ce midi. Hein.
Oui, tu n'as pas bougé, c'est bien.
Ah oui, je suis vissé à mon fauteuil.
À ton fauteuil, tu as bien raison. Roulant. On ne va pas te déplacer comme ça. Jérôme Coppel.
Salut,
dans
Christophe.
La place.
Salut
Jérôme.
Salut.
Pierre-Yves Leroux également toujours là. Salut. L'œil sur les classements, il va nous les donner dans quelques minutes.
Oui, je fais le lien entre l'Italie et la France. Tadej Pogacar aujourd'hui avec une 12e victoire rejoint Gino Bartali. 12 victoires.
Et on revient Gino le pieux. Je ne sais pas si Tadej est aussi pieux que l'était Bartali. Et puis il descend de sa moto et de sa montagne. Arnaud Souk, qui nous a fait vivre la course depuis la moto RMC. Salut Arnaud.
Salut à toutes et à tous. J'ai eu un peu froid quand même tout au long de la
montagne. Ah oui, alors oui.
8 degrés à 2642 mètres d'altitude.
Ah ben ça change des 34 degrés d'il y a 3 jours.
Et j'étais pas le seul à avoir froid. Hein. J'en ai parlé avec Mathieu Jorgensen.
Arrêtez de vous plaindre. Un coup il fait trop chaud. Un coup il fait trop froid. Un coup il pleut. Attends, vous avez une température idéale aujourd'hui.
Je t'ai descendu une décoration et c'est comme ça que tu me traites, Cyril.
Je sais pas.
La belle décoration du Tour de France.
Oui, je suis désolé.
Il a gagné quoi?
Merci
encore
pour maintenant, il m'a décoré.
Le Tour de France, magnifique.
Bah oui, il m'a décoré.
Il faudra que tu en gardes quelques-uns pour Jeannot quand même.
Excuse-moi, avec cette décoration, j'aurais dû dire que du bien de... Non, mais je suis pas fait comme ça.
Non, dire du bien, c'est pas le genre de la maison Guimard. Nous nous sommes régalés tout à l'heure et on va revenir évidemment en son sur ce qui s'est passé cet après-midi. L'attaque dans le Galibier, dans les derniers hectomètres de cette ascension classée hors catégorie d'un certain Tadej Pogacar et une descente vertigineuse vers Valoir.
C'est parti pour Pogacar, la voilà l'attaque sur la droite de la route. Pogacar avec Evenepoel qui essaye de suivre, avec Vingegaard également qui est tout de suite dans la roue de Pogacar. Pogacar qui met un écart en revanche sur Evenepoel et qui a lâché 4-5 mètres. Il se retourne derrière, il est à fond. Il peut pas suivre pour le moment, il n'a que les deux fantastiques devant avec Pogacar. Mais Vingegaard, il est comme un sparadrap dans la roue de Pogacar. Il va tenir, il reste 600 mètres encore à parcourir. C'est entre ces deux garçons que vont se jouer les bonifications au milieu de la neige, en haut du Galibier. Vingegaard semble facile dans la route de Pogacar qui va en replacer une. Attention, il y a 1 mètre, il y a 2 mètres, il y a 3 mètres, il y a 4 mètres. Ça y est, Pogacar a peut-être fait la différence. Virage à droite, il a pris un petit peu d'avance. Et Vingegaard cette fois n'arrive pas à suivre. Premier indice, on a des réponses. Vingegaard qui baisse la tête dans le Galibier. Pogacar est en train de gagner le premier round au milieu de la neige. C'est lui le plus frais, c'est lui le plus fort pour le moment dans ce Tour de France. Il ne va sans doute pas se relever avant la ligne. C'est comme un chrono, il faut passer la ligne parce que chaque seconde est importante. Tadej Pogacar qui passe la ligne, qui lave les bras après la ligne et qui gagne cette étape.
Voilà, on reprend son souffle. Quel souffle, mon cher Pierre-Yves. Déchaîné dans cette étape.
Pas eu de pneu motorax.
Ah non, c'est pour ça.
Ça aide.
C'est pour ça. On va te faire monter les cols à venir du Tour de France. Victoire donc de Tadej Pogacar. On attendait Poggi, il a répondu présent. Il a même éparpillé la concurrence aujourd'hui en direction de Valoir. Victoire d'étape, maillot jaune. Il l'avait déjà porté sur les routes de ce Tour, mais sans vraiment le vouloir. Là, on a l'impression qu'il l'a voulu, il l'a obtenu, il va le garder un moment, Arnaud, non ?
J'ai l'impression surtout que UAE a réalisé le plan rêvé, quand on peut en discuter avec les coureurs, avec le staff. Voilà, c'était vraiment le plan d'attendre les tout derniers mètres pour placer cette attaque, pour être dans de bonnes conditions, pour derrière faire la descente et creuser l'écart dans la descente. On a suffisamment interrogé les questions de descendeurs par le passé de Tadej Pogacar sur le Tour de France, notamment l'an passé, on se posait la question à un moment de savoir s'il avait les mêmes que Jonas Vingegaard. Et bien là, il nous a montré aujourd'hui qu'il avait de très 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 bonne qualité de descendeur. Le plan a été exécuté à merveille.
Ah oui, parce que c'est dans la descente qu'il a creusé les écarts, parce qu'au sommet, au Galibier, Pierre-Yves, il n'y avait pas grand-chose entre les
deux cadors. Il y avait 7 secondes.
7 secondes.
Ouais, exactement.
Et à l'arrivée, il y en a...
Il y en a 35. 35. On ne prend pas les bonifications en plus, mais c'est vrai que c'est vraiment dans cette descente où il a fait la différence, pas sur le début de la descente, mais sur la fin où on a senti, comme l'expliquait Cyril pendant le direct, que Jonas Vingegaard payait les efforts qu'il avait produits dans le dernier kilomètre de la montée et que derrière, il avait du mal à récupérer. Et c'est là où il a été rattrapé par d'autres coureurs. Peut-être heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait eu plus d'écart avec d'autres derrière, il aurait eu encore plus de débours à l'arrivée.
Oui, effectivement, il a vu, il s'est vu rattrapé par Rodriguez, par Roglic, ensuite par Evenepoel et Ayuso. Bon, Ayuso l'a pas beaucoup aidé à revenir sur Pogacar, évidemment, c'était pas son rôle. Le lieutenant de Poggi, dont on parlera tout à l'heure, parce que celui-là, c'est un futur grand, déjà à 21 ans, il est impressionnant. On va tout d'abord rappeler les classements du jour avec toi, Pierre-Yves, donc les écarts, classement de l'étape et classement général.
Oui, effectivement, avec donc Tadej Pogacar qui est au premier rang du classement de l'étape devant Remco Evenepoel, arrivé 35 secondes plus tard, tout comme Juan Ayuso et Primoz Roglic. Et à 37 secondes, nous avons Jonas Vingegaard et Carlos Rodriguez. Mikel Landa est à 53 secondes, tout comme Almeida. Et puis beaucoup plus loin cette fois, Giulio Ciccone à 2 minutes 41. Et les Français sont dans ce débours important puisqu'il faut aller chercher à la 20e place Guillaume Martin qui est même beaucoup plus loin puisqu'il est à 4 minutes 1 au classement général. Donc on a Tadej Pogacar en tête, Tadej Pogacar qui avec les bonifications peut avoir même 45 secondes aujourd'hui sur Remco Evenepoel et 50 secondes sur Jonas Vingegaard en 3e position. Ayuso, Roglic, Rodriguez, Landa complètent ce classement, un classement où il faut aller très très loin pour retrouver Richard Carapaz qui était maillot jaune au début de cette étape. On pensait qu'il pourrait défendre ce maillot, mais il termine 22e, enfin il est 22e au classement général désormais, à 5 minutes 28. C'est la plus grosse déception du côté des leaders. Peut-être aussi, même si ce n'est pas un leader, mais un équipier, Jorgensen, qui a été décevant aujourd'hui, mais qui avait chuté, donc c'est peut-être une explication.
Ouais, Carapaz qui a peut-être un peu trop fêté son maillot jaune hier soir. C'est peut-être là l'explication, non ? Hein ? On disait qu'il fallait tremper à peine les lèvres dans la coupe de champagne, Cyril. A priori, il a bu la bouteille entière. Hein.
Oui, à mon avis, il a pris un bain.
Oui, un bain de champagne. Poggi est donc à l'heure au rendez-vous, Jérôme. On n'en attendait pas moins de lui. Il a été tellement impressionnant dans le Giro et même dans les courses qu'il a faites avant le Giro. Il est là, il déçoit rarement. Ça lui est arrivé dans le Tour de France l'année dernière ou il y a 2 ans pour l'instant. Sur le tableau noir, c'est parfait.
C'est parfait. Et puis, décevant sur le Tour de France, il fait quand même 2e à chaque fois. Donc, bien sûr, on est habitué à ce qu'il gagne.
Oui, mais quand il gagne les deux premiers Tours de France, on se dit il est parti pour
voilà, c'était pareil avec Egan Bernal. Mais si on prend sa saison complète, Pogacar, c'est incroyable. Il a fait 35 jours de course, 19 podiums, 15 victoires depuis le début de la saison. Donc, c'est pour vous donner un peu les statistiques de Pogacar. Donc là, voilà, comme l'a dit Arnaud, le plan était prévu au départ. Il a été exécuté à la perfection. Maintenant, on se demande presque qu'est-ce qui se serait passé s'il avait attaqué un peu plus loin. Est-ce que Roglic serait complètement out, par exemple, parce qu'on l'a vu un petit peu limite? Est-ce qu'il aurait fait péter Vingegaard plus tôt et pris peut-être un peu plus de temps? Alors, avec Desi, on peut refaire plein de choses. Mais il y avait vent de face dans le Lautaret, donc bien sûr c'était pas là où le meilleur moment pour attaquer. Après, dans la partie Galibier, les 9 derniers kilomètres, ils avaient plutôt vent favorable, mais il avait une équipe tellement forte avec Ayuso, avec Almeida, on en parlera plus tard, mais qui s'est appuyé là-dessus et finalement il a vraiment fait l'effort dans les 600-700 derniers mètres. Ça lui a suffi à basculer avec un peu d'avance et à faire la différence dans la descente. Lui est impressionnant, son équipe l'est peut-être encore plus, à l'inverse de celle de Vingegaard où il était tout seul en fait. L'autre leader qui avait encore un équipier, c'était Remco Evenepoel qui avait encore Landa, mais tous les autres étaient esselés.
Finalement, c'est le mieux qui puisse nous arriver sur cette étape, c'est qu'il y ait eu un peu de vent pour limiter les dégâts, parce que ça aurait pu être un peu plié. Ça a joué beaucoup, finalement, Cyril, ce vent aujourd'hui.
Le vent est l'élément essentiel de la compétition cycliste, car nous ne sommes jamais dans un vent nul. Et même s'il y avait un vent nul, comme vous avancez, vous avez donc du vent face à vous. Donc le vent est l'élément essentiel avec l'élévation de la masse, c'est-à-dire que lorsqu'on monte une côte, on est obligé de monter son propre poids. Mais même quand vous êtes dans l'élévation de la masse, comme vous avancez, vous n'avez donc pas un vent nul, vous avez toujours du vent, et c'est pour ça que j'affirme que le vélo, c'est la de voile. La voile.
Le vélo.
Le savais, tu le savais pas, Christophe?
J'ai jamais entendu cette expression. C'est nouveau, ça. Tu viens de sortir ça, Cyril. Hein, c'est bizarre pour
un nouvelle punchline.
Mais bah, tu sais, à partir d'un certain âge, faut que je trouve des trucs à dire nouveaux.
Ah, je croyais qu'on disait que j'allais dire on radote.
C'est pas son genre. Pas du tout son genre.
Alors, Poggi réalise une immense opération. Faut remonter, Pierre-Yves, plusieurs années en arrière pour trouver une telle différence faite dès la première étape de haute montagne, quand même. Hein, parce que ces dernières années, la bagarre entre Vingegaard et Pogacar n'avait pas donné lieu à grand chose en termes d'écart.
Dans la plupart des étapes, c'est vrai qu'il y avait de la proximité. Alors j'ai essayé de rechercher justement ces premières étapes. Il y a eu la première confrontation en montagne en 2021. Alors là, il y avait eu un gros écart entre Oyonnax et le Grand Bornand, puisqu'il y avait 3-20 à l'avantage de Pogacar. Le lendemain, entre Cluse et Etting, le Slovène ne prenait plus que 32 secondes au Danois. Voilà, on est dans les premières confrontations, le début de ce duel qu'on voit encore aujourd'hui sous nos yeux. Lors de la 7e étape en 2022 à la super planche des belles filles, là vous vous souvenez encore mieux parce que c'est plus près dans vos mémoires, les deux hommes terminent premier et deuxième et ils se départagent qu'aux bonifications. Et il faut attendre la 3e étape de montagne, celle entrée dans la légende du Granon, pour voir cette fois Vingegaard prendre 2 minutes 51 à Pogacar. Et je trouve que le comparatif il est particulièrement intéressant. L'an passé, dans un même contexte inversé, puisque c'est Pogacar qui était de retour de blessure, c'est cette 5e étape entre Pau et la Reims, avec l'ascension de Marie Blanc. Vingegaard, là, avait lâché le Slovène et il avait pris une 0,4 d'avance. Donc on est à peu près sur la journée d'aujourd'hui. Le lendemain, vers Cotteret, Pogacar avait là aussi pris sa revanche en reprenant 24 secondes avant, comme vous le savez, de craquer en 3e semaine et particulièrement sur le chrono de Combloux en perdant 1 minute 38. Le chrono qui sera le prochain juge de paix, ça sera vendredi entre les deux hommes, sans oublier un troisième homme, Evenepoel évidemment.
Tadej Pogacar, que moi j'ai trouvé moins chien fou que les années précédentes, le fait d'attaquer finalement si près du passage au sommet, il y a quelques années, il y a un an en arrière ou 2 ans en arrière, il aurait attaqué de beaucoup plus loin, là... c'est beaucoup plus scientifique de la part du Slovène, non ? Vous ne trouvez pas ?
Ça a l'air, surtout, excuse-moi Cyril, surtout sur même, je dirais moi, sur les deux premières étapes où là, on s'attendait à voir Pogacar attaquer, ouais. On l'a pas vu du tout, voilà, ou même la deuxième à San Luca, il a vraiment attaqué sur le sommet de la bosse. Je pense que les autres années, il aurait vraiment essayé d'attaquer de plus loin. Il a fait ça les deux dernières années, ça a pas marché, on apprend toujours de ses erreurs et je pense qu'il bride un petit peu plus. On verra s'il arrive à s'y tenir parce que les autres années, il allait même gagner des victoires en petit comité au sprint, faire des bonifs, voilà, il s'éparpillait un peu partout, ça n'a pas l'air d'être
on
le castagné.
On l'a vu faire comme ça quand même dans le Giro, hein.
Ouais, mais il était un peu tout seul, sur sa planète, il était un peu tout seul, donc là, par contre, il se méfie quand même énormément de Vingegaard, bien sûr, hein, même s'il revient de blessure, et puis il garde un œil sur Remco Evenepoel, mais on sent qu'il est beaucoup plus prudent que les autres années.
Est-ce qu'il ne l'a pas un peu essoré, quand même, tout au long de la montée? Est-ce qu'il n'a pas essoré petit à petit la Visma
avec son équipe,
oui. Oui, avec son équipe, et au final, voilà, une fois qu'il a essoré le linge, il est passé à l'attaque.
Et ben, de toute façon, je pense que c'est la meilleure stratégie qu'ils ont avec l'équipe qu'ils aligne au départ de ce Tour de France. Remco Evenepoel l'a dit, on écoutera peut-être son interview après, mais il disait que voilà, petit à petit, il commençait à être usé, puis quand ils ont attaqué, il a fallu qu'ils gardent son rythme. Donc avec la force de frappe qu'ils ont chez UAE, c'est la meilleure stratégie à utiliser, à condition que l'étape s'y prête. Là, il y avait vent de face, ils ont roulé en tournant à droite pour monter le galibier. Voilà, petit à petit, une fois qu'Ouellen s'est écarté, c'est les grimpeurs qu'on mis en route, et à chaque fois, ça a mis des crans de plus, et on voyait, ça pétait par l'arrière jusqu'à ce que Poggi attaque.
On va parler de la formation UAE, qui est la véritable dream team de ce Tour de France, à la différence des années précédentes. Mais pour revenir sur la maturité de Pogacar, c'est plus un jeune coureur, c'est plus un chien fou. Et le talent, il l'a toujours, mais en plus, il a maintenant la tête pour gagner les courses.
Oui, il y a longtemps qu'il a la tête pour gagner les courses.
Oui, mais tu ne trouves pas qu'il y a quand même,
il y a une évolution et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement qu'il y a une évolution, on apprend de chaque course, on apprend de chacune de ces
des baffes reçues l'année dernière.
Les baffes, ça fait du bien, c'est interdit aujourd'hui, mais bon. mais les baffes, ça fait du bien, c'est ce qui te remet les pieds sur terre. Et je pense que ces deux dernières années, de temps en temps, quand on gagne tout le temps, comme l'a fait Pogacar depuis ses 19 ans, ben on a l'impression que rien ne peut vous atteindre, rien ne peut vous détruire, et puis ben il y a un moment, vous jetez la goupille et vous gardez la grenade entre les dents. Bon, ben ça se passe mal, bien sûr. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il arrive à 27 ans, qui est d'ailleurs en l'âge de la maturité la plus... parfaite ou la plus absolue.
C'est l'âge idéal pour un coureur
voilà.
cycliste.
C'est toujours vrai, ça.
Il est passé. C'est toujours vrai.
Il passe pro de plus en plus jeune.
Tu as raison de dire qu'il passe pro de plus en plus jeune. Ça ne change rien à la maturité d'un individu et à ce qu'il va recevoir comme message. Moi, totalement.
Oui, mais t'es toujours sur de tout, toi, donc ça change rien.
Il a 25 ans.
Il aura 26 ans en septembre.
Donc, il a encore 2 ans pour progresser.
Il est trop fort. Il retombe toujours sur ses pattes. Et pour reprendre...
Non, le problème, c'est de prendre de la sagesse en course, c'est d'avoir une meilleure lecture de la course, c'est-à-dire, non pas d'être plus fort qu'à 22 ou 23 ans ou 24 ans, c'est de mieux calculer le coût de chaque coup de pédale. Et si vous prenez une autre époque, on va revenir à l'époque où les Français gagnaient le Tour de France. Louison Bobet gagnait son premier tour à 27 ans. Ouais. Bon. Mais Jacques Anquetil, qui l'avait gagné à 23, a recommencé à gagner le tour à partir de 26, 27 et 28 ans. C'est à ce moment où on a la plus grande maturité sur le plan physiologique, sur le plan physique, sur le plan mental surtout et sur l'intelligence de course.
Même si évidemment les coureurs arrivent plus vite au sommet hein, dorénavant. Quand tu vois un Ayuso qui a 21 ans, qui a fait 3e de la Vuelta, qui a été énorme encore aujourd'hui, on a l'impression que la maturité elle est acquise un peu plus tôt.
C'est l'impression que j'ai. Et les carrières, est-ce qu'elles vont être aussi longues qu'avant? Oui. Pour un Mark Cavendish qui a 39 ans, mais il n'est pas passé pro à 19 ans comme Ayuso. Imaginez si Ayuso va jusqu'à 39 ans, je lui souhaite, il aura fait 20 ans chez les pros. Pogacar le disait lui-même il y a quelques années, il dit « moi je vais sûrement pas faire 15 ou 20 ans dans le peloton ». Quand tu passes pro à 20 ans, c'est les sacrifices et la difficulté de ce métier. Les carrières seront peut-être un peu plus longues, c'est pour ça que je pense que la maturité arrive un peu avant. Maintenant,
Non, ton calcul il n'est pas bon.
Non, il n'est pas bon parce que les coureurs qui arrivent aujourd'hui ont aussi un meilleur développement à partir de 14, 15 et 16 ans que ne l'avaient ceux qui ont aujourd'hui 30 ans.
Mais en revanche, tu as raison. Peut-être que leurs carrières seront plus courtes. Et ça, c'est possible parce que la pression, elle est forte, notamment pour des leaders.
Puis la fortune sera faite bien avant.
Non, mais toi, tu penses qu'à l'argent.
De Cyril Guimard. Pour moi, t'es plus mature.
On parle pas d'argent.
Pas important pour un sportif de niveau de gagner des sous.
Je vais vous donner un petit exemple. Si les informations sont bonnes, quand vous prenez un type comme Ayuso, on l'a découvert, il est arrivé, les chevaux, il les a, il le démontre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vivre à Andorre.
Pour des questions fiscales.
Ouais, mais il vit tout seul. Enfin, ou il vivait tout seul, peut-être plus aujourd'hui. Mais il s'est isolé complètement en Andorre. Attendez, faut un méchant mental pour, sous prétexte que vous allez faire une grande carrière, que vous gagnez beaucoup d'argent et que vous pouvez économiser éventuellement au niveau des impôts, aller vivre à...
Mais est-ce que c'est une bonne idée d'ailleurs?
Comment ?
Est-ce que c'est une bonne idée ?
Ah, je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre.
Bon, après, Andorre, c'est quand même réputé au-delà pour le côté financier. Il y a de la montagne, il y a de l'altitude, il y a la moitié du peloton qui vit Andorre. Il vit peut-être tout seul, mais il ne doit pas rouler souvent seul.
Enfin, tu vis ta famille, tes parents,
c'est un supermarché
tes copains.
Mais à un moment...
C'est ce que va faire Lenny Martinez aussi,
voilà,
d'ailleurs.
Si tu veux atteindre le très haut niveau, si t'es un grimpeur et que t'habites dans une région toute plate, faudra bien un moment partir pour pouvoir travailler tes qualités premières. Donc ça fait partie du métier.
Ce
il y en a d'autres
qui
habitent sur la côte d'Azur quand même. Il y a beaucoup de coureurs qui habitent sur la côte d'Azur.
Vingegaard, il habite à côté de chez moi, à Annecy maintenant.
C'est vrai ?
Ouais, bien sûr.
Mais je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure.
Mais pas pour
beaucoup,
la fiscalité.
Beaucoup de gens
Annecy,
disent, ou les coureurs eux-mêmes, si on veut réussir, effectivement, mais ce ne sont pas des sacrifices. Tu y vas parce que c'est ta passion.
Ouais.
Bon, et tu ne fais pas un sacrifice en faisant ça, puisque grâce à ta passion, tu vas pouvoir trouver des éléments qui vont te permettre d'aller le plus haut au plus haut niveau. Moi, quand j'entends que c'est dur le matin, il faut faire des privations. Non, on fait pas de privations quand on veut arriver au sommet. On y va avec plaisir.
Très bien.
Eh bien, Pogacar, il va avec plaisir. Il nous offre beaucoup de plaisir également lors de ses attaques. Il en a pris aussi. On va l'écouter tout de suite. Ravi évidemment de sa prestation et des écarts réalisés. Tadej Pogacar.
Yeah, I'm super happy.
Ouais, je suis très content.
This was more or less the plan and we executed it really well and
voilà, yeah, I'm super happy and respecté le plan.
Yeah, it was like a dream stage and
c'était comme un rêve cette étape.
Solo, it's incredible and I'm super happy.
Finir comme ça, c'est formidable.
The breakaway guys on their own in the lead, but you really wanted to hit hard.
Yeah, I wanted to hit hard today.
Mettre un fort rythme
really
aujourd'hui.
I've been training here a lot of weeks already.
Oui, je me suis entraîné beaucoup ici dans le passé.
Yeah, it felt like a home stage passing
c'est
through
comme une étape à la maison ici à Montgenèvre.
It was really, really nice to race here and
c'est vraiment
it was bonus
sympa de rouler ici.
Well, so,
yeah, avoir quelques secondes d'avance au sommet, parfait.
I had confidence in the start and
voilà,
had good
j'étais
legs
confiant au départ, j'avais des bonnes jambes
you
aussi.
Made the difference
donc,
going uphill, the Galibier, but also going downhill.
Vous avez fait la différence dans la fin du Galibier, mais aussi dans la descente.
Yeah, it was a lot of headwind in the climb, so
il y avait beaucoup de vent à la fin de la montée.
Hard, but the team did a super well job, but
l'équipe a fait un super travail.
Because,
je voulais pas y aller trop tôt à cause du vent.
And I had to do all the difference I could in the last
few hundred
meters.
Toute la différence
meters.
Que je pouvais dans les
then,
500 derniers mètres.
Yeah, I know the downhill, but I was a little bit surprised to see.
Je connais bien cette descente, mais
corners,
j'étais un peu surpris
bit,
par les premiers virages scary, dans la descente. C'était un peu dangereux.
Then yeah, this descent is super fast and
après,
yeah, if you know the road also it helps.
Et quand tu
last
connais bien
year,
la route, forcément c'est plus facile.
Stage, you had lost more or less 50-55 seconds on Jonas this year. You have an advantage.
Vous avez un avantage maintenant avec 50 secondes d'avance, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Je peux.
I'm super happy with the shape and how I feel on the bike. So
comment je me sens sur le vélo aussi. On va essayer de continuer comme ça jour après jour.
Voilà, Tadej Pogacar, ravi, on le saurait à moins, hein, quand on fait une telle différence comme ça lors de la première étape de montagne. Pogacar qui a grimpé magnifiquement, qui est descendu à une vitesse astronomique.
À ce sujet, alors, il disait que c'était dangereux.
Oui,
alors figurez-vous qu'il y a de la neige quand même qui s'est écoulée, il y a eu des coulées de neige sur la route et il a fallu quand même les dégager.
On voyait,
très mouillé.
On voyait la neige fondue,
c'est
enfin de l'eau sur la route.
J'ai voulu vous le dire dans le feu du direct, mais j'étais trop accroché à la moto. Donc voilà, mais non.
C'est descendu à quelle vitesse à peu près?
On était à 90 km/h hein, sur le haut. Et c'est hyper technique et franchement il y avait vraiment et je pense que c'est ça le pire en fait, c'est on passe de parties sèches à des parties mouillées et ça c'est un véritable problème en général pour les cyclistes et c'est à plusieurs reprises sur les 2-3 premiers kilomètres de descente que c'était comme ça, donc franchement j'ai eu un petit peu peur.
T'as pas fait de l'huile, toi?
Moi j'ai pas fait de l'huile pour moi, c'est plus pour les coureurs. Non, avec Marco il peut rien se passer.
Tom Pidcock est passé à 106,6 km/h aujourd'hui.
D'accord, ça lui a permis de rattraper un peu son retard de la montée quand même.
C'est pas mal quand même, hein.
Ouais.
C'est quand même un super descendeur.
C'est le meilleur descendeur de la Terre, Tom Pidcock, qui malheureusement n'est pas encore...
Il a pris 11 minutes aujourd'hui.
Ah ouais, 11 minutes, c'est dur. Il a dû en rattraper quelques-unes dans la descente et rattraper un paquet de coureurs.
Mais alors... ça doit pas être facile pour lui, parce qu'il y a une semaine, il faisait les Coupes du Monde de VTT.
Oui.
Alors, je voudrais revenir à une
Quelle idée aussi, alors?
Ouais, ah non, parce qu'il
veut être champion olympique.
Il veut être champion olympique, tout simplement.
C'est pour avoir un bon dossard aux Jeux Olympiques en VTT.
Voilà, il était obligé d'y aller.
Est-ce qu'à vouloir tirer tous les lièvres à la fois,
une deuxième médaille olympique, c'est peut-être pas mal non plus.
Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il était obligé de faire le tour, du coup?
Mais peut-être que ça va être sa dernière, enfin, olympienne en tout cas en VTT, à voir, j'en sais rien du tout, mais il a déjà été champion olympique, ça se murmure qu'il va peut-être changer d'équipe. Il affirme, lui, que son objectif, c'est un jour de gagner le tour ou d'être sur le podium. À un moment, les deux objectifs vont
se télescoper.
Voilà, ils vont se télescoper, donc il va falloir qu'ils choisissent.
Ouais, certainement Benjamin Thomas ne fait pas le Tour de France, par exemple. Lui, il s'entraîne sur la piste pour être performant au jeu.
C'est pas pareil. Et encore, il pourrait presque, parce qu'il veut, son ambition, c'est pas de gagner le tour à Benjamin Thomas, par exemple. Mais si on veut être un leader dans une équipe de l'envergure d'Ineos et de jouer la victoire sur le tour et de faire deux semaines ou trois semaines avant des Coupes du Monde de VTT, c'est pas jouable. Et à un moment donné, Ineos, ils vont leur dire s'ils restent chez Ineos ou même s'ils partent, à un moment donné, il faudra qu'ils fassent un choix.
Oui, mais enfin, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Je voudrais revenir sur une déclaration enfin, que je viens de lire, là, sur l'équipe. Tadej Pogacar dit... Pogacar. Il dit... aujourd'hui, il fallait avoir des couilles. Là, je trouve que c'est formidable que dans la période que nous vivons, il faut faire attention à tous les mots qu'on dit.
C'est formidable de dire des gros mots. Tu es content,
voilà, ben moi je trouve ça bien qu'il se lâche.
Je te signale que ton petit-fils nous écoute.
Eh ben oui, ça va pas le choquer.
Alors, la différence faite par Pogacar, mais aussi, et c'est peut-être l'une des raisons de son succès aujourd'hui, c'est cette formidable équipe. L'équipe UAE, on le disait avant le début du Tour, c'est la Dream Team du Tour de France, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Là, quand tu as des Ayuso, quand tu as des Almeida, des Yates, des Soler,
Tim Wellens, des Wellens, des Peu,
je veux dire, c'est hallucinant. C'est vraiment aujourd'hui la meilleure équipe du peloton. Et on le voit d'ailleurs, parce que derrière Pogacar, il y en a combien qui sont classés dans le top 10 de l'étape aujourd'hui,
Encore deux, Ayuso encore et deux. Almeida qui fait 8e. Donc Ayuso 3e, Almeida 8e. Et on a Adam Yates qui n'est pas très loin derrière.
13e.
Donc,
c'est moins bien que Visma l'an dernier au Tour d'Espagne où il fait 1-2-3 au général.
Ouais, c'est
pas la même concurrence pour plus Cyril.
Ils n'avaient pas la même. Mais vous voyez, c'est les cycles, la roue tourne.
C'est notre grande chance d'ailleurs d'avoir deux coureurs qui se rendent coup pour coup depuis 4 ans et font le spectacle. On a eu des éditions, enfin voilà,
rappelez-vous, il y a 2 ans, la Dream Team Visma, enfin c'était la Jumbo à l'époque dans l'étape du Granon.
C'était une masterclass,
performance incroyable de cette formation, mais aujourd'hui ils sont battus par UAE,
et oui,
qui a retenu les leçons du passé.
C'est ça, les années suivent et se ressemblent pas, mais là l'équipe UAE, moi j'ai pas souvenir d'avoir vu une équipe aussi forte sur le papier au départ. On sait pas le résultat, mais au moins des 20 dernières années, même à la grande époque de Sky et compagnie, ils n'avaient pas autant de mecs aussi forts. Et là, mais même Pogacar le disait avant le départ du Tour, elle me fait peur cette équipe presque. Et moi je disais, on l'a dit dans certains podcasts, j'avais peur que le problème, et on n'est pas encore au bout du Tour, que le problème vienne de l'intérieur. Parce que Almeida, Ayuso, à un moment c'était à toi, moi on ne savait pas trop qui allait rouler. Ils ont roulé, mais ils n'ont pas vraiment pété. Ils sont toujours là, ils font 3e et 8e. Alors Pogacar, c'est le taulier, il n'y a pas de questions à se poser.
Pas cette année, tout du moins.
Voilà, pas cette année, mais dans les années à venir. Voilà, comment les prochaines semaines vont se passer et les saisons futures.
D'ailleurs, c'était très intéressant de voir ces relais, effectivement, entre Almeida, Ayuso,
un petit peu Moyette. On a l'impression que certains pétaient, mais en fait, pas du tout. Ils se mettaient en deuxième rideau et après, ils revenaient devant.
Oui, c'est une stratégie qu'on ne voit pas d'habitude. Il y a un gars qui va faire 2-3 kilomètres. Voilà. C'est pourquoi, ça ? C'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher, ou bien c'est stratégique et c'est mis en place.
Le vélo, c'est de la voile. Il y avait du vent.
Donc il fallait s'économiser par moment et revenir
derrière. Il fallait absolument tourner. Et ce qui est assez amusant, parce que j'ai regardé d'autres commentaires qui ont été faits, sur le temps de la montée du Galibier. Mais sur les 8 derniers kilomètres, on a explosé le temps. Mais sur cette montée, il y avait la plupart du temps vent favorable et à d'autres moments, un petit peu de vent de face. Donc c'est où vous gérez le vent ou vous le gérez pas. Si tu mets un type tout seul à rouler, il se prend le vent, là tu vas l'exploser, ça fait un de moins. Donc, et puis il fallait garder des coureurs pour faire la descente. Ne jamais déshabiller quelqu'un qui est le leader de ton équipe ou qui a le maillot ou qui va le prendre. Dans la descente, si Pogacar il a un problème, une crevaison ou une chute sans gravité qui lui permet de repartir, il a deux équipiers qui sont à moins d'une minute. Donc il est protégé.
Et moi je me demande s'il n'y a pas un autre chose aussi entre Ayuso et Almeida. Il y a peut-être un leadership autour d'Espagne à venir aussi. On ne sait pas. Parce que
n'allons pas si loin.
On ne sait pas. Ces deux jeunes coureurs, il y a Pogacar qui est au-dessus, mais eux ils veulent manger un peu du gâteau aussi. Donc le Tour d'Espagne, peut-être que celui qui va montrer le plus de choses sur ce tour aura peut-être le leadership au départ au Tour d'Espagne. C'est des problèmes de riches, mais...
Et pourquoi pas un triplé historique.
on en parlait avec Pierre-Yves l'autre fois dans la voiture. Dis-moi, s'il gagne le Tour, pourquoi est-ce qu'il priverait d'aller tenter sa chance? Mais entre-temps, il y aura encore eu les JO, etc. L'eau va couler sous les ponts.
Objectifs.
Enfin, les JO, c'est une journée de course.
Il va en faire deux, lui, sûrement. Mais...
Donc, juste un petit mot quand même sur Ayuso. J'en parle comme ça depuis quelques instants. 21 ans, aujourd'hui, il fait le boulot.
Podium de la Vuelta, déjà.
Il va aller chercher...
À 19 ans, il avait fait podium de la Vuelta.
Il prive Roglic des bonifs. Celui-là...
Et il sort d'une chute aussi.
Oui. Est-ce qu'il va rester très longtemps? Est-ce qu'il a intérêt à rester très longtemps chez UAE? Pour l'instant, il est encore en couveuse, finalement.
Qui est capable de le payer plus cher que l'UAE.
Oui, mais d'accord. Alors, je croyais que l'argent n'était pas important pour les coureurs.
Ben si, il est important.
Et tu me dis le contraire deux minutes après.
C'est du grand Guimard, ça.
Tout à fait.
Mais on le sait aussi, les grands champions ont aussi envie de gagner. Ça, de gagner les grandes courses.
Bien sûr, ça dépend ce qu'ils vont lui donner. Il faut donner à manger un peu à tout le monde. Donc si c'est toujours tout pour Pogacar, ce qui n'est pas le cas sur le Tour, oui, mais le reste du temps, il distribue un petit peu. Tant qu'il lui donne un petit os à ronger, bah, il va rester. Il faut qu'il reste dans son équipe.
Il faut quand même qu'on se souvienne qu'ils l'ont mis en position de leader sur le Tour de Suisse et qu'il n'a pas gagné.
Oui, mais il ne va pas gagner toutes les courses auxquelles il va être leader.
Le Tour de Suisse, c'est quand même très proche du Tour de France. Il a déjà fait podium du Tour d'Espagne,
certainement qu'il voudra gagner un Grand Tour, et un jour le Tour de France, et tant qu'il y a Poggi à ce niveau-là, ça va être un peu compliqué. Moi, ça me rend triste tout ça, parce que si eux,
ils sont capables de gagner tous les tours, quand est-ce qu'un Français va gagner un Tour d'Espagne, un Tour d'Italie ou un Tour de France ?
Je ne sais pas si on le verra de notre vivant, mon cher Cyril.
T'es sûr ?
Bah,
on va se mettre à pleurer.
Certains
ont
plus de chance que d'autres.
Arnaud et Jérôme, peut-être plus de chance que Cyril et moi, c'est sûr. Alors, le grand battu du jour, même s'il n'est qu'à 50 secondes au classement général, c'était évidemment Jonas Vingegaard, qui a tenu, ou presque, dans l'ascension, qui a répondu à l'attaque de Pogacar, la première attaque en tout cas, et puis à la sortie du virage, Pierre-Yves, lorsque celui-ci a remis une deuxième couche, là, ça a été plus compliqué pour Vingy. On a vite vu
quand même que ça allait être compliqué.
Ah, c'était pas du tout la même physionomie que l'année dernière, où là, il collait à la roue arrière de Pogacar quand celui-ci attaquait. Là, on voyait la différence. On se demandait s'il y aurait une différence entre les deux. On se demandait si Vingegaard ne nous avait pas bluffé, s'il ne nous avait pas menti avant le début de ce tour.
Il y a quand même une certaine logique.
Oui, mais c'est complètement logique.
Et souvenez-vous, l'an passé, Pogacar, sur la première étape de montagne dans le col de Marie-Blanc, c'est pareil. Il craque complètement. C'est vrai ? Pourquoi tu dis ah ?
Non. Donc, oui, on peut...
Je pense qu'on nous a dit quand même plus ou moins la vérité sur Vingegaard. Moi, je suis désolé. À partir du moment où ce garçon l'a vu quand même dans une civière, où ses parents se sont plaints de ne pas pouvoir aller le voir à l'hôpital, où on sait qu'il a passé quand même 12 jours à l'hôpital, ou alors vraiment, c'est un gros complot qu'il y a contre nous. Mais imaginez 3 mois après ce garçon-là être au niveau de Pogacar.
Mais déjà, être à ce niveau-là, c'est déjà très bien.
Mais bon, moi, je suis rassuré parce qu'il y a 2 ou 3 jours, on disait ouais, vous imaginez ce qu'on va dire si jamais Vingegaard est au même niveau que Pogacar, on va crier au scandale.
Moi le premier.
Au moins, ça nous rassure un petit peu.
Je suis en partie rassuré. Bon. Mais s'il était au niveau de Pogacar, oui, je me serais posé des questions et je le dis publiquement. Si c'était vrai, on nous aurait menti quelque part.
Mais il reste encore quelques étapes. On va voir s'il va monter en puissance ou pas.
La question, c'est savoir s'il va régresser ou s'il va progresser dans les jours qui viennent.
Et lui, est-ce qu'il nous joue de la flûte ou pas ? Je ne sais pas, mais il a fait une déclaration et il a dit « Moi, je pensais perdre 2 minutes, enfin être à environ 2 minutes après 4 étapes. » Il dit « Donc, je suis content, je suis qu'à 50 secondes. » Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Si c'est vrai, bah, finalement, il est mieux, il est en avance sur ses temps de passage.
C'est le discours, en tout cas, du côté de l'équipe et de Vingegaard aujourd'hui, de dire bah finalement c'est plutôt bien, on savait qu'on allait perdre du temps. Alors toujours pareil, est-ce que c'est du bluff ou pas, quoi? Mais
vous voulez qu'on l'écoute ou alors vous voulez tout me dire ce qu'il a dit?
On l'écoute.
Qu'est-ce qu'il a dit,
Jonas? Qu'est-ce que tu nous dis?
To be honest, when we came into the Tour de France,
pour être honnête, en arrivant sur ce Tour de France, on pensait être derrière.
All of the stages, so to only lose time
de perdre du temps
in one of them, I think we can actually be pretty happy with. And yeah, I mean, to be honest, most of the time I lose today is in the second part of the downhill.
Pour être honnête, tout ce que j'ai perdu là comme temps aujourd'hui, c'est plutôt dans la deuxième partie de la descente.
I think we can be happy with how
things are. Je pense qu'on peut être vraiment content de ce qui s'est passé pendant ces 4 jours là du Tour de France. 37 secondes de retard à l'arrivée.
I think it went pretty well.
C'est plutôt bien.
I think until we went left and then it was straight. I kept the 10 seconds pretty much, but then he has how do you say it? A bit more gravity.
Je pense que dans la descente, en fait, il avait peut-être un peu plus de gravité, il est un peu plus lourd, donc pour gagner du temps par rapport à moi.
I have to accept it.
Voilà, il faut que j'accepte ça.
You were quite isolated or isolated quite soon. How much of a difference did that make?
I mean, of course,
it always helps to have a helper there. Maybe I would have put him on the front, you never know, but yeah, I think that was how it was today, and
I know what mieux être especially Matteo devant, and Wilco can do, so I think for sure Matteo they will be there later in the race. Qui a eu des difficultés aujourd'hui. Voilà, vous pensez que vous pouvez être confiant pour reprendre du temps maintenant.
I think that's a small victory still.
Oui, il y a des petites victoires qui vont arriver maintenant.
Voilà, Jonas Vingegaard, vainqueur, double vainqueur sortant du Tour de France. Il reste confiant, il reste confiant.
Bon. Il reste confiant, ouais. Il était plutôt content de sa descente aussi.
Il dit que Pogacar est plus puissant que lui dans les descentes. On n'avait pas vraiment vu ça l'année dernière.
Un peu plus un peu plus de poids, je pense, que vraiment de gravité.
On s'en était pas rendu compte l'année dernière, quand même.
Non, on s'en était pas rendu compte l'année dernière.
Et lui non plus n'en avait pas parlé.
C'est peut-être aussi une question de par contre non, Vingegaard il a toujours on sait quand même qu'il est beaucoup plus frêle que Pogacar hein. Moi je me souviens
ceci dit ce qu'il dit je trouve que c'est parfaitement clair. Il oublie qu'une petite chose, mais ça je sais pas si sur les gains marginaux ils en parlent, c'est que Vingegaard a une meilleure fluidité dans l'air que Pogacar, qui compense la... Je l'ai dit en direct.
C'est quoi c'est le nez
Oui, il a pas le masque sur le nez.
D'accord, ouais. Ok. Non, juste si je puis me permettre, parce que du coup, j'étais au bus, moi, pour interviewer Jonas Vingegaard, et moi, j'ai senti vraiment quand même beaucoup de sérénité. Il était assez... Je m'attendais à le voir un petit peu abattu quand même, et il était pas du tout abattu. Il est venu sur les rouleaux, ça a été quelque chose de limite christique, en fait. On avait l'impression d'être à l'église, on était 10 journalistes autour, il y avait pas un bruit.
Il y avait des moines autour.
On l'a regardé pédaler pendant récupérer pendant une dizaine de minutes. Et puis il allait prendre sa douche et puis il est revenu. Et vraiment, il était souriant. Et c'était pas du sourire de façade. Hein. Je pense que vraiment, il y a de la satisfaction aujourd'hui.
Je pense qu'il pensait vraiment perdre deux minutes. Et
donc on est bien dans la réalité de ce qu'on évoquait. Il n'est pas au top au départ de ce tour.
Non, il ne pouvait pas l'être. Mais oui, il dit, je suis content de ma descente. Il a raison il a doublement raison. D'une, ça le remet en confiance après sa chute quand même. Faut retrouver ses repères.
Alors, et dans ça,
le peloton,
c'est important.
Et dans les descentes. Et puis, il a pas perdu de temps du tout sur Pogacar sur la partie technique. Il en a perdu sur la partie où il fallait baisser 2-3 dents pour remettre de la puissance. Là, il a perdu du temps sur la fin de la descente qui était moins technique. Mais sinon. Niveau confiance, ce qu'on a vu à l'écran, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'appréhension, à l'inverse d'un Evenepoel, par exemple. Et sur la partie ultra technique, il n'a rien perdu sur Pogacar.
Non, il a même repris du temps.
Il a même repris un peu de temps. Donc c'est vraiment sur le physique.
On a Pogacar qui dit j'ai géré la première partie. Alors tant que il y a Pogacar qui retient.
Et l'autre qui pousse.
Et l'autre qui pousse. Ce qui fait qu'effectivement, à 2-3 secondes près, ça s'équilibre. Mais à partir du moment où il fallait remettre les chevaux, il en a manqué beaucoup à Vingegaard.
Alors, outre la performance moyenne du double vainqueur sortant, même si on a entendu qu'il était plutôt satisfait de cette perf, à noter aussi la prestation collective de la Visma Elise Bike. Elle inquiète un peu. Son lieutenant désigné, Matteo Jorgensen, termine 12e à 2,52. Jorgensen, là aussi, la Visma Elise Bike,
très amoché,
disait avant le tour. Alors, amoché.
Il est très amoché. Il a chuté l'autre jour. C'est hier qu'il a chuté. Hier. Et vraiment, il avait des gros pansements, notamment au niveau du coude. Il avait les jambes également qui étaient très touchées. Alors, il était plutôt... ça allait. Enfin, je veux dire, quand on l'a vu à la fin, il était plutôt...
D'accord. Donc, c'est la chute qui explique cette performance.
Lui-même, en tout cas, s'est posé la question.
Ouais, l'écoute, justement. Matteo Jorgensen, lieutenant désigné de Jonas Vingegaard, vainqueur de Paris-Nice, deuxième du Dauphiné, qui aujourd'hui est 12e à 2,52 au général. Matteo ? On l'a pas, Matteo ? Ah, je croyais qu'il était à Paris.
En plus, il parle français.
Bah oui, c'est
dommage.
Bon, bah tant pis, nous n'avons pas de Matteo.
Dans la tête déjà qu'on va perdre du temps cette première semaine. On pensait en fait déjà San Luca qu'on va perdre du temps là, mais Jonas était sur le hauteur ce journée-là. Mais aujourd'hui, il était proche, mais pas là. Donc voilà, c'est comme ça.
Matteo Jorgensen, donc un peu déçu évidemment pour son leader. Il n'a pas parlé de lui, mais tu le disais, amoché quand même. On verra s'il se refait la cerise lui aussi d'ici la fin de Tour de France. Moi, je l'avais mis troisième sur le podium, donc pour l'instant.
Ouais, il va remonter.
Très bien. Vingegaard est donc troisième au général, devancé de 50 secondes par Poggi et de 5 secondes par Remco Evenepoel, dont on se demandait s'il allait bien pouvoir résister aux deux monstres du Tour. Bah, pour l'instant, il se défend plus que bien. Remco, c'est, pour moi, c'est la bonne surprise.
Carrément.
Franchement, c'est la bonne surprise de ce début de Tour de France. Le visage aminci, performant en montée, bonne mine, un peu en difficulté quand même dans le début de la descente, parce qu'on sait que c'est pas son truc, la descente. Les souvenirs récents et plus lointains de ces gamelles, évidemment, font que bah, il a toujours une petite appréhension.
Oui, mais c'était bis repetita avec Sanluca, et on voit qu'il est tellement performant derrière qu'il revient. Ouais, et ouais. Donc ça, c'est puissant, très ouais. intéressant. La seule interrogation, Cyril, tu le disais aussi pendant le direct, c'est sur des montées plus sèches, plus dures, avec des pourcentages plus compliqués. Est-ce qu'il va être capable de tenir? Mais en tout cas, pour le moment, il montre.
C'est Newton qui répondra.
Voilà, c'est ça.
Ouais, exactement. Mais alors. Une bonne nouvelle déjà, il n'y a plus d'arrivée en descente sur des étapes de montagne, ça va toujours arriver en haut, et il n'y a pas vraiment de col ultra ultra raide non plus. Le plateau de Baye par exemple qui est très dur, voilà, c'est des pourcentages à 9-10% comme ils ont eu au Galibier.
La Bonnette c'est un peu comme le Galibier,
voilà. Même genre. Par contre c'est sur beaucoup plus de kilomètres. C'est
la Bonnette faudra redescendre avant de monter à Isola 2000 quand
même. Mais l'arrivée reste au sommet, donc est-ce que les autres leaders vont faire les descentes à bloc pour faire péter, on verra où on en sera à ce moment-là, mais ça c'est quand même des bonnes nouvelles pour Remco Evenepoel. Il fait forte impression. Et moi, je suis surpris, d'une part son niveau et par son équipe. Parce que finalement, à part Pogacar qui avait des équipiers, l'autre leader Landa, c'était lui. Et ils ont été là toute la journée. Franchement, ils ont, sur le papier, pas une grosse équipe. Sachant qu'ils sont tombés, ils se sont cassés des dents, ils ont eu tous les pépins du monde et ils sont tous là.
C'est incroyable de voir la Quick-Step, de voir l'équipe de Lefebvre.
La transformation.
Être en tête ou presque dans l'école, ça, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Quoi.
Pas pour jouer le général.
Clair.
On voyait souvent les trains avant les sprints, mais pas sur des étapes de montagne.
Une équipe, on le rappelle, qui était spécialisée pour les classiques et qui s'est transformée parce qu'elle a cette pépite Remco Evenepoel. Il ne faut pas oublier que Remco Evenepoel, c'est son premier Tour de France.
Remco, ravi par sa perf du jour. Pour lui, tout reste encore jouable dans ce Tour de France. On l'écoute.
Oui, exactement. Ça, on le sentait dans les jambes. Dès que Tadej l'a accéléré, il y avait quand même... un sentiment lourd dans les jambes quand même, mais il fallait pousser, il fallait aller jusqu'à la limite, jusqu'au sommet. Donc j'ai poussé le maximum possible, et puis à la descente, il fallait prendre des risques. Puis il y avait un peu d'eau qui était dans les virages, qui était assez glissante. J'ai glissé quelques fois, donc j'ai pris les risques, et puis après, il y en a qui sont revenus sur moi, donc... Ouais, c'est clair que j'ai fait deux petites erreurs dans la descente qui m'ont pris un peu de confiance dans les virages après. Donc, c'est comme ça. Mais puis, deuxième dans l'étape, c'est pas mauvais du tout.
Et avec Mikel Landa aussi très longtemps à côté de vous, finalement, Pogacar et vous étiez les seuls à avoir des équipiers.
Ouais, voilà. Donc, je pense que l'équipe était vraiment, vraiment en bon niveau aujourd'hui. J'ai eu presque tous mes coéquipiers, sauf Yves, à côté de moi jusqu'au pied du Galibier, enfin au sommet de l'Otaret. Donc, très bon boulot de l'équipe. Et puis, quand UAE a vraiment accéléré, je pense que là, quelques-uns, ils ont dû lâcher. Mais je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Donc, il faut être fier de l'équipe, du travail de l'équipe. Et puis, une bonne deuxième place, je pense que c'est très bon pour le moral, très bon pour la motivation. Et puis, un très bon début du Tour de France pour nous.
On sait que vous êtes venu pour un top 5, mais quand on voit le travail des Emirates et ce que fait Pogacar aujourd'hui, ben, on se dit déjà que pour une éventuelle victoire finale, c'est pas possible.
Bon, il faut toujours voir, hein, la course elle est encore longue, donc on sait jamais si t'as un day off, mais faut pas regarder les autres, faut regarder notre boulot, notre équipe, et puis sentir nos jambes. Donc il faut pas regarder les autres, sauf nos plans, nos stratégies, et puis on va se battre jusqu'à Nice, ça c'est clair, mais... Ouais, on ne sait jamais, hein. Faut toujours pousser, il faut toujours y croire, mais comme on l'a déjà dit, on est là pour un top 5, donc je pense que là on est bien dans le top 5 pour le moment, donc pour le moment tout va bien et je m'amuse, donc j'espère que ça continuera comme ça.
Voilà, Remco Evenepoel qui s'amuse et qui croit encore en une victoire possible. Alors, il parle de top 5, ça c'était l'objectif initial. Maintenant, quand tu es deuxième au classement général et qu'il y a un chrono dont on sait que c'est sa spécialité dans 3 jours, Arnaud, voilà quoi.
Alors, il y a un chrono, il y en aura même deux parce qu'on a 25 km dans 3 jours. Si ma mémoire est bonne, on doit avoir 35 km au pas loin de
Monaco.
33 km entre Monaco et Nice. Alors, J'ai regardé un petit peu les statistiques entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel en chrono. Ils ont fait 5 chronos l'un contre l'autre et Remco Evenepoel a toujours repris du temps à Tadej Pogacar. En même temps, c'est un grand rouleur, mais parfois, alors ça, vous en faites ce que vous en voulez de ces chiffres. Il a quand même pris au championnat d'Europe en 2021 sur 22 km, il lui a repris 1,06. Au championnat du monde en 2021 sur 43 km, il lui a repris 1,09. Au championnat du monde en 2022 sur 34 km, il lui a repris 39 secondes. Et en 2023 sur 47 km, alors peut-être que ce jour-là, Pogacar l'avait pas fait à fond, mais il avait repris 3,05. Donc à chaque fois, quand même, il a repris beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à observer. Et ça pourrait permettre à Remco Evenepoel de, voilà, en tout cas, de pondérer l'écart intrinsèque qu'il y a entre les deux en montagne.
Pardon, Cyril ?
Je dis d'y croire.
Ouais.
Ça, c'est important.
Bah, de toute façon, c'est un des meilleurs rouleurs du monde. Après, les statistiques hyper intéressantes, elles sont beaucoup sur des courses d'un jour, par contre. Donc, sur un chrono sec, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Faut voir là, au bout de quasiment une semaine de course aussi, ce que ça va donner. Mais, en tout cas, sur le papier, il y a match. Je pense même que Remco est un peu au-dessus de Pogacar sur un chrono comme il y aura vendredi. Vraiment, pur rouleur comme ça. On voit sa position ultra aérodynamique, le matériel impeccable. Tout va bien, tout ira bien pour lui. Maintenant, Pogacar, sur les chronos, il sait, surtout sur le Tour de France, il sait se sublimer aussi. Il a déjà gagné des chronos sur le Tour.
Sauf
l'année dernière. Avec le maillot jaune sur le dos. Mais l'année dernière, il prend un carton. Il fait deuxième.
Par Vingegaard.
Par Vingegaard. Il fait deuxième et il met un carton aussi au troisième et quatrième. Mais là, il n'est pas dans la même forme que l'année dernière.
Il avait pris 1,38 et puis le lendemain, il prend plus de 6 minutes. Voilà. Donc il était déjà dans une dynamique.
Mais ça va être un joli match et surtout, Tadej Pogacar, s'il garde le maillot jaune, il aura les temps intermédiaires de Remco Evenepoel.
Et ben on va se régaler. Ce
qui n'est pas toujours une bonne chose.
Il est bien lancé ce Tour de France avec cette première étape de montagne qui a vu quand même Pogacar taper du poing sur la table. Mais rien n'est encore joué et Remco pourrait nous réserver de belles surprises. Jonas pourrait aussi monter en pression et puis Ayuso, sait-on jamais, pourrait faire quelque chose.
C'est fini ?
Roglic aussi.
C'est déjà fini ?
Ah oui, c'est déjà fini.
C'est trop court.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux ?
On revient demain.
On revient demain. Ah non, toi, t'es de repos, toi, demain. On revient pour 4 heures. Demain quand même, donc on va avoir le temps d'en parler.
4h du matin, vous revenez ?
4h du matin.
Ah, très bien.
Jusqu'à 6h le lendemain. Voilà, très bien. Merci messieurs. On se retrouve donc demain, nous, pour le direct à 14h et sur RMC 100% route. Ce sera dès midi avec toute l'équipe de 100% route, notamment Jérôme Pinault, François Pinet et tous les autres qui seront demain au rendez-vous. Et nous, on se retrouve demain 14h pour le direct. Bonne soirée. Ciao, ciao.
RMC L'After Tour.